parce qu'on va me demander le titre. On va commencer par le titre. Ce sera Balaam. Balaam. Alors, vous savez que les femmes sont toujours curieuses. Hein? Je ne sais pas, mes frères, si vos épouses sont curieuses, mais en tout cas, la mienne, elle est dans... C'est une épouse. Elle est curieuse. Et elle m'a dit, mais tu vas parler sur quoi ce matin? Ben, je lui ai dit, tu sais, chérie, si je te dis tout maintenant, tu n'auras plus de surprise ce matin. Elle a dit, bon, les grandes lignes. Je dis, ça va être sur Balaam. Alors, au lieu de répondre à ses questions, moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, Balaam, tu le mets où? Parce qu'on a tous déjà entendu parler d'histoire de Balaam, mais ce n'est pas l'histoire qu'on va lire et relire forcément récemment. Il y en a peut-être qui ont des lointains souvenirs. Balaam, qu'est-ce que ça vous dit? Pour vous, c'était un jardinier, c'était un prophète. Waouh, un prophète. Donc, si c'était un prophète, c'était quelqu'un qu'on va vraisemblablement classer dans les gens bien. Qui pense que c'est quelqu'un de bien? Qui pense que c'est quelqu'un de pas si bien que ça? Bon, il y en a beaucoup, ils sont sans opinion quand même. Hein? Ben oui, et je sais que dans les histoires d'enfants, dans les livres d'enfants, on voit souvent Balaam sur son ânesse et puis un ange devant qui barre la route. C'est peut-être les seuls souvenirs que certains ont. Et ce matin, ben, je vous propose de lire ensemble cette histoire. Alors pourquoi cette histoire? Ben, c'est parce que ben, c'était au fil de mes lectures. Je l'ai lu et ça m'a interpellé. Et je me suis dit que ça m'a parlé dans la lignée de la dernière prédication que j'ai faite, où il était question de mélange, hein, de mélange de choses bonnes et de choses mauvaises. Ça avait un autre nom, c'était les dissonances. Vous vous souvenez, mais c'est toujours dans la même lignée. Et justement, Balaam, c'était un personnage ben, dans le cœur duquel il y a aussi du mélange. Et on va regarder de près ben, quel type de mélange c'était et on verra ce qu'on peut en tirer pour nous. Alors, on ne va pas faire toute la lecture parce que ce serait trop long. Il y a plusieurs chapitres à lire. Mais on va lire un petit extrait, juste le début. Donc ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Au verset 1. Nombre 22, 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Quelle comparaison, hein ? Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » On va s'arrêter là. C'est le début d'histoire. On a déjà beaucoup de bases qui sont là. Alors, qui est Balaam? Si on lit ce début, on vient de découvrir qu'il a une étiquette. Il est devin. Bon, devin, ça fait un peu monde dans le monde. Hein. Les chrétiens disent qu'il est prophète. Hein, ça fait un peu mieux, quoi. Devin, ça fait un peu satanique. Bon, ça a une connotation qui n'est pas terrible. Nous, on dit qu'il est prophète. Et donc, si on regarde, il n'a pas l'air si mauvais que ça, quoi. Il dit qu'il va s'attendre à l'Éternel pour prophétiser. Mais quand même, dans son attitude, on va voir qu'il y a des germes qui montrent le vrai de ce qui est en lui. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, et après il y a des choses qui sont faites. Et il n'y a pas forcément... Là aussi, il y a une dissonance. Alors déjà, si on l'observe, il se présente à lui des personnes qui n'ont pas usé de la dissimulation. C'est clair. Ce sont des Moabites qui viennent, qui ne sont pas forcément des amis du peuple d'Israël, c'était des ennemis, et ils viennent en affichant clairement leur couleur. Ils ne se sont pas affichés comme étant des amis, ils n'ont pas essayé d'usurper l'identité d'un peuple ami. Et malgré cela, ouais, je t'entends le dire, Alain, tu as tout à fait raison, Balaam, comment se comporte-t-il par rapport à eux? Il leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Ça fait curieux quand même, comme comportement, non? Vous avez des gens qui viennent chez vous, ils s'affichent clairement comme étant des ennemis, et vous les invitez à passer la nuit chez vous. Ça vous semble cohérent? Et puis, faut consulter l'Éternel, hein, parce que faut savoir ce qu'il faut faire. Bah oui! Mais c'est l'attitude de Balaam. Hein. Il les a accueillis. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de l'hospitalité, tout ça, mais là, c'était quand même les ennemis. Et il les a accueillis. Et si on regarde au verset 9, Dieu vient à Balaam et que lui dit-il? J'ai changé de ton en le lisant tout à l'heure. Hein. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Le Seigneur a l'art de poser, de donner des réponses quelquefois, mais quelquefois il pose des questions. Et Jésus, face aux pharisiens, les pharisiens lui posaient des questions, mais Jésus leur donnait pas de réponse, il leur répondait par des questions. Et j'aime bien voir Jésus qui, une fois, il a décidé de répondre par une question, hein, le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Puis si vous me répondez, je vous répondrai. Et puis, ils étaient bien dans l'embarras. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Dieu sait ce qu'il y a en nous. Et il savait exactement ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Et Dieu est venu à lui pour lui poser une question. Qui sont ces hommes qui sont là chez toi? Moi, ça me rappelle une question que Dieu a posée à Caïn. Que Dieu connaissait aussi la réponse. Hein. Où est ton frère? Tu ne trouves pas que ça y ressemble un peu? Qui c'est ces gens qui sont chez toi? Caïn, où est ton frère? Dieu savait très bien ce que Caïn avait fait. Il n'avait pas besoin de la réponse. Mais quand Dieu pose des questions, il est pédagogue, hein. Et un prof, ça pose aussi des questions à ses élèves pour les faire réfléchir. Et ça cible bien les questions, la succession des questions, pour les amener à trouver les réponses eux-mêmes. Et là, ben Dieu lui pose une question. Qui sont ces hommes? Pour l'interpeller. Mais Balaam avait déjà son idée, hein. Et Dieu va écouter sa réponse. Alors Balaam répond à Dieu, voilà, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas la répéter, parce qu'en plus on est en temps limité. Mais que lui répond le Seigneur? Verset 10. Dieu dit à Balaam, c'est verset 12. Premièrement, tu n'iras point avec eux. C'est clair. Dieu ne tourne pas autour du pot. Tu n'iras point avec eux. Deuxièmement, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. La réponse de Dieu est claire. Tu n'iras pas. Alors Balaam, bon prophète, obéissant, se lève au matin, et il va retrouver les personnes qui sont venues chez lui, et il leur explique, l'Éternel ne veut pas, donc j'y vais pas. Et ils repartent. Si l'histoire s'était arrêtée là. Mais non, l'ennemi il a plus d'un tour dans son sac. Et évidemment, ils reviennent à la charge. Et c'est là que ce qui est en vrai dans le cœur de Balaam va commencer à ressortir. Parce que quand ils reviennent une deuxième fois, ben Balaam il refait la même chose. Et il va reconsulter l'Éternel. Franchement, était-il besoin de reconsulter l'Éternel pour la même chose? Pensez-vous que Dieu, la deuxième fois, ait changé d'avis? Ben non. C'est non. La réponse avait été claire. C'est non. Tu n'iras pas. Et pourtant, que lui répond le Seigneur? Alain, il est branché, hein? Mais la deuxième fois, on va lire le verset 18, « Balaam répondit et dit au serviteur, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Sa première réponse paraît bien, hein? Oh, encore que vous me donneriez tout l'or du monde, je ne désobéirai pas à mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Pourquoi? Pourquoi redemander l'avis de l'Éternel? Et la deuxième fois, verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Alors je me demande, est-ce que Dieu lui a dit ça ou est-ce qu'il croit avoir entendu ça? Toujours est-il que il a décroché l'accord de Dieu et moi ça me fait penser un peu à l'histoire de Pharaon. Vous savez, Pharaon, au début, quand il a résisté, qu'il ne voulait pas laisser partir le peuple, c'est écrit qu'il a endurci son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Et après plusieurs plaies, c'est plus écrit que Pharaon a endurci son cœur. C'est écrit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et là, ben j'ai envie de penser que ça y ressemble un peu. Vous savez, Dieu nous connaît. Il sait ce qu'on a à l'intérieur. Il a déjà donné sa réponse. Mais Balaam, il revient pour reposer sa question. Vous savez, on a des enfants. Les enfants, ils tentent la première fois. Papa, maman, je peux, Non. Bah, forcément, il va revenir à la charge. Je peux, Bon. Alors, soit on reste ferme, soit, à force d'être importuné, on va commencer à laisser un peu de mou. Là, on dirait que le Seigneur a décidé d'aller dans son sens. Puisque tu veux y aller, vas-y. Vous savez, Dieu, il nous a créés à son image pour qu'on vive en relation avec lui. Dieu veut être aimé. Quelque part, il a besoin de cette relation. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il a besoin de cette communication. De la même façon qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, de la même façon, Dieu a créé des êtres pour vivre en relation avec lui. Et si on oblige quelqu'un à nous aimer, est-ce que ça peut fonctionner? Non. Dieu veut qu'on lui obéisse de tout notre cœur. Et si on y est obligé, est-ce que ça a de la valeur? Non, ça n'a pas de valeur. Alors Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Écoute, puisque tu veux y aller, vas-y. Et voilà, Balaam, tout content d'avoir décroché cet aval divin, il y va. C'est pas fait prier, Il se lève de bon matin au verset 21, il selle son ânesse et il partit avec les chefs de Moab. Mais voilà que, sur la route, les choses commencent à se gâter. Et on pourrait avoir l'impression que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, quoi? Il a dit d'y aller, puis d'un seul coup, il barre la route. Que penser? En fait, Dieu ne nous a pas créés pour faire de nous des esclaves. On est libre. On est libre de choisir. Mais Dieu nous aime. Et il va quand même mettre des barrières s'il voit qu'on va sur un mauvais chemin pour nous faire réfléchir, pour nous interpeller. Et là, il essaye d'interpeller Balaam pour lui dire « Mais Balaam, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais Balaam ne fait même pas le lien entre le comportement de son ânesse et de ce que Dieu lui a déjà dit à la première fois. Alors, on ne va pas tout lire parce que ce serait trop long, mais l'ange, il est devant le chemin. Et l'ânesse le voit, mais Balaam, lui, ne voit rien du tout. Et ce n'est que à la troisième tentative, quand l'ânesse, l'ange a décidé, vous savez, il recule petit à petit sur le chemin, jusqu'au moment où il se met à un endroit où il n'y a plus de possibilité d'aller ni à droite, ni à gauche. Jusque-là, l'ânesse s'était écartée, et là, comme il fallait continuer pour aller au bon endroit avec les Moabites, l'ange s'était mis à un endroit du chemin où c'était resserré et l'ânesse ne pouvait plus aller ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée parce qu'elle était coincée. L'ânesse voyait l'ange et si on regarde au verset 22, c'est pas le verset 22. Le 27, oui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Franchement, si vous comparez l'attitude de Dieu avec Balaam et l'attitude de Balaam avec son ânesse, on va se rendre compte que Balaam est beaucoup plus méchant, beaucoup plus sévère. Regardez un peu comment Dieu fait. Il l'amène à réfléchir. Il y va progressivement, Dieu, pour que Balaam puisse enfin comprendre qu'il est sur un mauvais chemin. L'ânesse, elle fait un peu comme Balaam, elle a l'air bien têtue. Balaam, il voudrait qu'elle aille dans une direction, mais elle va dans une autre. Et que lui dit Balaam ? Si je pouvais, je t'aurais déjà tué. Il est horrible avec son ânesse. Il est beaucoup plus horrible. Dieu est compatissant. Il a beaucoup plus de compassion pour Balaam. Et quand Balaam est confronté à Dieu, quand ses yeux s'ouvrent, il s'humilie. On aurait l'impression qu'il a compris. Il s'humilie. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Balaam vit l'ange. Et un peu plus loin, Balaam dit à l'ange au verset 34, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi. » Et maintenant, il ne dit pas « Je m'en retournerai. » Si tu me désapprouves. Il se moque du monde quand même, Balaam, non? Vous ne trouvez pas? Vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas au courant que Dieu le désapprouve. C'est « si tu me désapprouves, je ferai demi-tour ». Il est encore en train d'essayer de négocier auprès de Dieu lui-même de pouvoir continuer sur son chemin. Pensez-vous que Dieu n'a pas compris ce qu'il y avait à l'intérieur? Ben si. Et c'est pour ça que l'ange ne va pas lui dire « Maintenant, je te laisse plus le choix, tu rentres tout droit à la maison », comme un père dirait à son enfant. Non. L'ange, de la part de Dieu, va lui dire « Allez, va, continue. Puisque ton cœur est tellement dur, alors tant pis, continue. Tu comprendras peut-être à l'étape suivante. » Parce que Dieu ne veut pas qu'on lui obéisse sous la contrainte. Dieu veut qu'on obéisse de tout notre cœur. Et donc Balaam continue. Et quand il arrive, au verset 37, Balak l'accueille. « N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Quand même, tu te rends compte ? Moi, je veux t'offrir des choses bien, et puis ton Dieu, il t'empêche de jouir de tout ce que je veux te donner. C'est quand même gonflé, hein. Trouvez pas ? Ben oui, mais ça, c'est le malin. Le malin, il va toujours essayer de nous faire croire que ben oui, ben lui, il nous veut du bien, il veut nous offrir plein de choses. Et ce Dieu vilain, il nous empêche de jouir de tout ça. Mais c'est ce que le malin dit au monde. Et là, on le voit, c'est la même chose. C'est toujours la même voix, c'est toujours la même source de mensonges qui coule. Si on lit la suite, ben on va constater que Balaam, finalement, bon, il a beau être têtu, il va quand même pas faire tant de mal que ça. Hein. Parce que, regarde, si vous lisez la suite, il va prophétiser des choses bonnes, il va dire ce que Dieu met dans sa bouche, il ne va pas maudire le peuple au point que Balak, au bout d'un moment, il va quand même en avoir marre, au point de dire, ben écoute, je te demande de le maudire. Et puis toi, tu le bénis. Alors écoute, je te demande plus de le maudire, mais au moins, arrête de le bénir. Si vous lisez la suite, c'est ça, hein. Il va peu à peu descendre dans ses exigences. Ben, on aurait presque envie de dire, ben là, ben finalement, il n'est pas si mauvais que ça, hein. Il va quand même dire la bénédiction par rapport au peuple d'Israël de ce que Dieu met dans sa bouche. Vous trouvez pas? On pourrait se demander, mais zut alors, pourquoi a-t-il toujours ce don de prophétiser? Pourquoi l'a-t-il? Pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas retiré? Parce que quand même, il est têtu sur le fond. Ben, il y a une explication dans Romains 11, 29, il est écrit que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Balaam a reçu ce don de prophétiser, de parler de la part de Dieu, même s'il est sur un mauvais chemin, il continue d'avoir ce don. On y reviendra un peu plus loin. Et il va quand même parler de la part de Dieu. Au point que si on se limite à la lecture de ses prophéties, c'est un bon prophète. Il prophétise du bon pour le peuple d'Israël. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres quand même dans ces prophéties. Surtout dans le début. On va aller voir au chapitre 24, au verset 3. Moi, ça m'interpelle quand même sa façon de se présenter, ce qu'il dit de lui-même. Chapitre 24, verset 3. Balaam prononça son oracle et dit, écoutez bien, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Oh, ça vous fait, vous riez, mais c'est vrai, hein, c'est marqué, hein, je ne l'invente pas, hein. Mais quand même. Il se met les médailles que Dieu ne lui a pas mises. Hein. Il s'octroie quand même des sacrées médailles, ce Balaam. Et si vous lisez d'autres oracles dans les chapitres suivants, c'est ça. Hein. À chaque fois, il répète cette longue tirade. Et je me suis dit quand même, il est gonflé ce Balaam. Il se donne les fleurs. Est-ce que les autres vrais prophètes de la Bible s'auto-gargarisaient de cette façon-là? Je suis allé relever comme ça pour avoir des exemples. Jérémie, pas du tout le même profil de prophète, hein. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, deux points, ouvrez les guillemets, et voilà, c'est Dieu qui parle. C'est plus sobre, on est d'accord, hein. On peut aller voir Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, deux points, ouvrez les guillemets, et c'est Dieu qui parle. C'est pas parole de l'œil qui a l'œil ouvert, gna 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 gna. Non mais vous riez, mais c'est réel, hein. Et comment il pouvait... Moi j'aimerais bien savoir comment il se sentait, ce prophète, à parler de la part de Dieu, certes, en sachant la route sur laquelle il était. Il était en territoire ennemi. Il était chez les ennemis d'Israël. Le bon sens, où était-il? Et pourtant, ben l'Esprit de Dieu parle quand même dans sa bouche. C'est fou, hein? Mais moi, ça me fait penser... Jésus, il a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu a le pouvoir d'utiliser n'importe qui pour parler, même les pierres. Et pourtant, on ne va pas dire que les pierres vont être sauvées, parce qu'elles ont parlé. Et quelquefois, Dieu peut te parler par la bouche de quelqu'un du monde qui va te donner une parole qui vient du Seigneur. Ça vous est jamais arrivé ? Un encouragement que vous avez pu avoir et qui venait de quelqu'un qui n'étaient pas chrétiens. Et Dieu vous a parlé par sa bouche. Ça arrive. Et il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé. Et, eh ben oui, Dieu est tout puissant. Et il peut utiliser n'importe qui. Et pourtant, Balaam, on ne peut pas dire qu'il était soumis à son Dieu. C'est incontestable. Et il a donc transmis un mauvais exemple. Et on va regarder au chapitre 25, un tout petit peu plus loin. On va voir une conséquence, l'une des conséquences du comportement de ce prophète, à vouloir mélanger ce qui vient de Dieu avec un peuple ennemi. Verset chapitre 25, versets 1 à 3. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'exemple, un mauvais exemple, qui a produit des conséquences néfastes sur Israël. C'est triste. Et lisez la suite, hein, c'est intéressant. Et comme la fin, l'heure approche, je vais accélérer. Quelle a été la fin de Balaam ? C'est intéressant de se demander quelle a été la fin. Comment est-il mort? Je l'ai rencontré. Honnêtement, je ne le savais pas. C'est en lisant, ben j'ai découvert que ah ben ouais, ben il parle de là et il a été tué. On va aller le lire parce que c'est quand même intéressant. Chapitre 31, versets 7 et 8. Donc c'est un peu plus tard, Dieu a ordonné à Moïse de venger le peuple d'Israël par rapport à toute la mauvaise influence des Madianites sur lui. Donc les Madianites, c'était les Moabites, hein, c'était ce même peuple. Hein. Et donc il a demandé à tuer, à exterminer le peuple de Madian. Ils s'avancèrent, verset 7, ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Ur et Reba, cinq rois de Madian. Et juste après, ils tuèrent aussi, par l'épée, Balaam, fils de Béor. Pourquoi ils l'ont tué ? Parce qu'il était encore une fois au mauvais endroit. Où se trouvait-il, à votre avis ? Ben, il se trouvait encore une fois dans le territoire ennemi. On aurait envie de dire, mais qu'est-ce qu'il foutait là encore une fois ? Est-ce qu'il avait écouté la voix du Seigneur qui lui avait dit, tu n'iras pas ? Il était têtu, en fait, on a l'impression qu'il était mieux là-bas que d'être avec le peuple d'Israël. Il était mieux là, ben il a fini comme eux. C'est triste comme fin, vous ne trouvez pas ? Pour quelqu'un qui pouvait parler de la part de Dieu, quelqu'un qui aurait pu avoir un ministère, qui aurait fait beaucoup de bien, il a béni le peuple d'Israël, certes, mais son mauvais exemple de se mélanger avec le monde a corrompu une partie du peuple. Aussi. Et il était tellement bien là-bas, au milieu du péché, qu'on dirait qu'il a passé encore beaucoup de temps là. Hein. Que faisait-il ? Et il en est mort. Il a été tué avec les ennemis. Sa désobéissance l'a conduit à la mort. Pourtant, il a eu plusieurs échéances. Il a eu plusieurs occasions de se repentir. Il a eu plusieurs occasions de faire demi-tour. Mais il n'a saisi aucune de ces occasions. Il a continué sur son chemin de désobéissance et il y a laissé la vie. Quelle trace a-t-il laissé derrière lui, ce prophète ? C'est intéressant de voir que ce prophète, il est cité aussi dans le Nouveau Testament. D'une bonne façon, pensez-vous ? Non. Il est cité comme un mauvais exemple. On ne va pas aller chercher, je vais juste vous lire les extraits. 2 Pierre 2,15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, etc. Il n'y a aucun de nous qui a envie d'être cité de cette façon-là. Hein. Non. Jude 1,11. À peu près le même contexte. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Caïn, Balaam, Corée. Oh. Ce sont des sinistres exemples dans l'histoire. Et ils sont cités là dans le Nouveau Testament. Et je voudrais terminer par un verset qui doit nous faire réfléchir. Je sais que Pascal, il l'a déjà cité, mais c'est un verset qui m'interpelle quand même. Mais là, au moins, on a un exemple concret de quelqu'un qui entre dans ce cadre-là. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas photo. Hein. Si on n'obéit pas au Seigneur, on ne fait pas sa volonté. On peut prophétiser. Et je vais lire la suite, mais vous la connaissez, verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» On croirait entendre la voix de Balaam, non ? Il a prophétisé au nom de Dieu. On a un exemple là de quelqu'un qui a prophétisé au nom de Dieu. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Dieu leur dira à ce moment-là, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Pourtant, Dieu a parlé à Balaam pendant la nuit. On est d'accord, on l'a lu. Mais il lui dira, « Je ne t'ai jamais connu. » Connaître, c'est pas juste parler avec, c'est vivre à l'intérieur. Balaam n'a jamais voulu obéir à Dieu. C'est l'exemple type de quelqu'un de désobéissant. Dieu ne l'a pas connu. Dieu n'habitait pas en lui, sinon il aurait fait demi-tour. On fait des erreurs, on est dur quelquefois, on n'entend pas bien ou on fait la sourde oreille. Mais quand Dieu s'adresse vraiment à notre cœur, on fait demi-tour. Mais là, Balaam n'a pas fait demi-tour. Il a continué. Et il figure dans les mauvais exemples. Alors, il ne faut pas que plus tard, dans l'histoire, on trouve notre nom pour nous citer en mauvais exemple. On est d'accord ? Il faut que, si on sait qu'on est têtu avec le Seigneur, et on est tous un peu têtus à des moments de notre vie, ben, il faut qu'on fasse demi-tour. Il faut qu'on écoute. Le Seigneur est bon, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est patient. Mais si on veut vraiment continuer, ben, il ne va pas nous mettre un mur pour nous mettre en prison à son service. Hein. Il faut que nous, on fasse demi-tour volontairement. Il faut qu'on se soumette volontairement à lui. Sinon, la voie est ouverte devant nous pour la mort éternelle. C'est clair, c'est ce qui est arrivé. Et il faut vraiment qu'on sache qu'on a une part de on a notre responsabilité. C'est notre responsabilité qui est en jeu, comme Balaam avait sa responsabilité. Il a choisi de continuer, Dieu l'a laissé faire. Et c'est à nous de faire demi-tour, à nous incliner devant Dieu et à dire au Seigneur, ben oui, j'arrête, je capitule. Alors je vais terminer par la prière, et puis qu'on médite sur la parole, sur ces exemples qui sont donnés dans l'Ancien Testament pour notre instruction. Merci Seigneur pour ta parole. Dans ta parole, il y a des choses bonnes, des choses qui paraissent mauvaises, comme cette histoire, mais elle est donnée pour notre instruction, pour notre bien. Seigneur, combien tu veux notre obéissance, mais tu ne veux pas nous écraser sous ta domination. Tu veux qu'on t'obéisse de tout notre cœur, avec notre volonté. Et Seigneur, que aucun de nous ne soit rebelle. Et on peut être rebelle même en étant bien avancé avec toi, rebelle sur certains domaines. Et Seigneur, que tu touches notre cœur pour ouvrir nos yeux et donne-nous cette obéissance de cœur. Amen.